Messieurs, mesdames, comme on l'a vu la semaine dernière, personne n'a entrepris une édition d'un texte de la liturgie longue indépendante des données de Gellner et basé sur l'observation directe des manuscrits. On a considéré que c'était impossible de rassembler à nouveau le nombre de manuscrits réunis et utilisés par Gellner. Hoffmann et Narten le disent explicitement dans Der Sassanidische Archetypus, c'est le point 1 du handout. Personne ne pourra jamais avoir accès à autant de manuscrits que Gellner, et de plus, quelques-uns employés par lui sont déjà perdus. Donc, l'édition de Gellner est irremplaçable. Pour mon doctorat, j'ai réuni quelques manuscrits exégétiques du Bidefdad, puisque les éditions du texte de Pihlevi ne me semblaient pas fiables. L'édition de Gellner était pour moi, comme pour tous les restes, de toute confiance, une fois révisée selon les principes hoffmanniens. Pourtant, l'usage des manuscrits exégétiques m'a amené à changer d'avis. C'est ainsi que j'ai commencé The Bidefdad Project, un site internet sur lequel on pouvait consulter un bon nombre de manuscrits du Bidefdad exégétiques et liturgiques. Céline, tu peux montrer. Un site internet, on pouvait consulter un bon nombre de manuscrits Bidefdad exégétiques et liturgiques en PDF. D'une part, les grands avantages de l'utilisation simple et systématique des manuscrits que les nouvelles technologies permettaient, et d'autre part, la constatation de quelques erreurs de Gellner et surtout les différences constatées dans la liturgie de Bidefdad entre les manuscrits et l'édition m'ont amené à la conclusion de la pertinence d'étendre ces projets à tous les manuscrits avestiques, en commençant par les manuscrits de la liturgie longue. Donc, en 2006, j'ai entrepris l'Avestan Digital Archive. Le but était de réunir des copies numérisées de tous les manuscrits avestiques qu'on peut encore trouver aujourd'hui et les publier sur le site internet de l'Avestan Digital Archive. La collaboration avec plusieurs bibliothèques européennes et américaines, ainsi que 4 voyages en Inde et 3 en Iran, nous ont permis de réunir une collection considérable de manuscrits avestiques numérisés. En Inde, par exemple, nous avons numérisé la collection complète de la bibliothèque de l'Université de Bombay, du Bhandarkar Oriental Institute de Pune et de la Mehajirana Library en Nawsari. En Iran, nous avons obtenu des copies de plusieurs bibliothèques comme la Bibliothèque du Parlement, la Bibliothèque nationale d'Iran, etc. En plus, nous avons réussi à numériser plusieurs manuscrits qui se trouvent soit dans des collections privées, soit en possession de quelques familles de prêtres zoroastriens. À l'heure actuelle, l'équipe de l'Avestan Digital Archive a numérisé 95 manuscrits de la liturgie longue et 52 sont déjà publiés online sur le site de l'Avestan Digital Archive. C'est le point 2 du handout. Les manuscrits publiés sont indexés, ce qui permet de faire très facilement des recherches sur un passage concret et les voir dans tous les manuscrits publiés, comme je pourrai vous les montrer à la fin de la conférence si quelqu'un est intéressé. De plus, on a localisé dans des catalogues, bibliothèques et collections privées 271 manuscrits de la liturgie longue. Gellner en avait utilisé 83 et plus 9 copies ou collations, nombre comparable aux manuscrits déjà numérisés par Ada. Mais le nombre de manuscrits dont nous avons connaissance et que nous avons vu est nettement supérieur. Le présupposé de Hoffmann et Narten, que personne ne sera capable de réunir le même nombre de manuscrits utilisés par Gellner, n'est donc pas avéré. En fait, comme il l'a signalé, la localisation actuelle d'un nombre significatif de manuscrits utilisés par Gellner est aujourd'hui inconnue. Je n'ai pas été capable de localiser 22 manuscrits de la liturgie longue employés par Gellner. C'est le point 2 du handout. Parmi ceux-ci, seuls 3 semblent avoir une certaine importance. Le Bidefdad Sade iranien GP1, le Bidefdad Pahlavi ML3 et peut-être KH1, un Vistas Vyas indien. Seulement les 3 siennes semblent une perte irréparable, puisque les Vistas Vyas Sade indien sont très rares. ML3 est une copie de K1, ce qui rend la perte moins douloureuse. Quant à YP1, on a trouvé beaucoup de manuscrits de la même classe qui peuvent les substituer, comme on le verra plus tard. Par contre, nous connaissons 184 manuscrits que Gellner n'a jamais vus, et nous avons en déjà numérisé 74. Miguel Ángel Andrés Toledo et moi-même avons publié une liste de manuscrits du Bidevdat que l'on connaît aujourd'hui, et j'ai demandé à Almut Hintze de faire de même pour les Yasna. Cependant, ces listes sont déjà incomplètes parce que le nombre de manuscrits ne cesse pas d'augmenter. Les découvertes les plus importantes concernent les manuscrits d'origine iranienne, dont on parlera après, mais parmi les manuscrits indiens, il y a aussi quelques manuscrits importants. La plupart des nouveaux manuscrits sont des manuscrits liturgiques. Mais parmi les manuscrits indiens, on trouve également des manuscrits exégétiques, Pehlevi et sanskrit. C'est le point 3 du handout. Aucun n'est rêvé en importance spéciale, mais les nouvelles découvertes ont apporté une meilleure connaissance de la famille des manuscrits de L4. Quand Deguis acquit les manuscrits en Inde, les premières 170 folios étaient endommagés et il ordonna de les remplacer. C'est Gellner connut les manuscrits justement avec ce remplacement, mais il n'y a pas accès aux folios originaux. Récemment, Dan Sheffield a découvert les folios originaux 2 à 30 dans une enveloppe à la Mehajirana Library. En plus, bien que Gellner ait disposé de nombreuses copies des K1, il n'en avait qu'un de L4, que peu de L4. À la Mehajirana de Nausari, lieu d'origine de L4, il y a 4 copies additionnelles qui permettent une meilleure connaissance de ces parties perdues. Pourtant, la plupart des nouveaux manuscrits trouvés sont des manuscrits liturgiques. Si on se limite aux manuscrits antérieurs à 1700, c'est le point 4 du handout, on connaît aujourd'hui deux nouveaux manuscrits liturgiques de Bisperat qui sont les plus anciens après K7b et qui appartiennent aux deux scribes les plus importants du 16e et 17e siècle en Inde, Ashdin Kaka Dampal en Absari et surtout Darab Hirachanda à Surat. De ces dernières, on connaît selon les colophons 4 manuscrits de la liturgie longue. Mon étudiant, Jaime Martínez, a récemment montré que le manuscrit K11 de Copenhague fut aussi copié par lui. Un autre manuscrit, O2, appartient à la même école, même s'il est un peu postérieur. La liste des nouveaux manuscrits liturgiques indiens antérieurs à 1700 se complète avec 4220 du Kama Oriental Institute et 4240 de la Mehajirana Library, les 3e et les 5e plus anciens manuscrits liturgiques indiens du Bidevdat. Bien qu'il y ait en Inde beaucoup de manuscrits qui ne sont pas encore répertoriés, les découvertes les plus importantes concernent les manuscrits iraniens. Vestergaard a brièvement visité Yazd et Kerman en 1843. Dans l'introduction de son édition, il donne très peu d'informations sur les voyages, mais dans une lettre envoyée à Wilson, il est plus loquace. Selon son information, il n'y avait que 1000 familles zoroastriennes à Yazd et une centaine à Kerman. Ils étaient pauvres et avaient très peu de manuscrits. Dans sa lettre, il mentionne les manuscrits suivants à Yazd. 2 ou 3 copies du Bidevdat et un Yasna avec traduction Pehlevi. Cette dernière information est de grand intérêt parce qu'on ne connaît aucun manuscrit exégétique de Yasna écrit en Iran. À Kerman, la situation était encore pire, puisqu'il n'y avait là qu'un Yasna, un Bidevdat et quelques Hordes Avesta. 45 après, Brown resta quelque temps à Yazd pendant son voyage en Perse. Bien qu'il ne connaissait pas bien les Pehlevi et encore moins l'Avestique, il montra à ses autres zoroastriens, Ardashir Mihravan et le célèbre Dashturti Andas, son intérêt par les manuscrits Avestiques et Pehlevi. Selon ces notices, la plupart des manuscrits iraniens avaient été envoyés en Inde par sécurité, puisque Ayas, il s'était menacé par le fanatisme de la population musulmane. Pourtant, il arriva à voir dans le temple du feu de Yash deux manuscrits avestiques. Le plus ancien lui fut prêté pour quelques jours et il put le consulter à la maison. Il le décrit comme un bidevdat Pehlevi, ce qui serait très intéressant parce que les manuscrits de ces classes sont inconnus en Iran. Pourtant, sa description nous permet de l'identifier avec les manuscrits liturgiques que je nomme comme 4010, le deuxième manuscrit liturgique de Bidevdat le plus ancien. Il a été copié par Bahram Mazvan en 1608 et se trouve aujourd'hui en possession d'un collectionneur privé à Yazd, c'est la possession de Bahit Solfegari. Il a encore vu deux manuscrits à Kerman, un Bidevdat Sadeh de Mazvan Bahram, le fils du scribe du manuscrit qu'il avait vu à Yazd, et un Horde Avestak, écrit par Isfandiar Anoshirvan Isfandiar Sistanik en 1811. Nous ne savons pas où se trouvent ces deux manuscrits aujourd'hui, mais nous connaissons cinq manuscrits écrits par Isfandiar, parmi lesquels on trouve un Horde Avesta différent de celui qu'il a vu. Les seigneurs de Vestergaard et Braun ont laissé l'impression qu'il n'y avait pas de manuscrits avestiques en Iran ou qu'ils étaient très rares. La plupart auraient été envoyés en Inde pour les préserver. On trouve la même affirmation dans Jackson 20 ans plus tard. Dastur Tirandas, qui avait aussi été l'hôte de Braun, lui montra trois manuscrits. Un vieux Bidevdat, le même que Braun a vu et qui se trouve encore aujourd'hui à Yazd, un jasna moderne et finalement un fragment du Vestaspiast. On l'a informé que ces trois manuscrits étaient les seuls disponibles à Yazd. Voilà les trois tentatives faites jusqu'à date récente pour trouver des manuscrits en Iran. Cependant, leurs résultats ont été très limités et sans aucune conséquence pour les éditions de l'Avesta. Aucun manuscrit découvert en Iran n'a été jusqu'à aujourd'hui employé dans une édition d'un texte de la liturgie longue, sauf quelques textes doctoraux dans les sphères de l'Avesta digital archive. Néanmoins, les manuscrits iraniens ne sont pas restés entièrement inconnus par quelques éditeurs de l'Avesta, comme nous l'avons déjà vu. Quelques manuscrits iraniens sont arrivés en Inde et ainsi les éditeurs européens ont en pris connaissance. Malgré leur séparation, les communautés indiennes et iraniennes sont restées en contact. Les rivayats persans témoignent des contacts fréquents et de la consultation continue des prêtres iraniens par les collègues indiens sur d'aspects rituels, entre autres. Étant donné que les manuscrits font partie de la formation rituelle, quelques manuscrits ont été envoyés d'Iran en Inde pour l'instruction des prêtres indiens. Ainsi, l'auteur d'un des rivayats les plus importants, Fredon Mazvan, est en même temps un important scribe de manuscrits avestiques. La notice l'appréhension d'un échange de manuscrits entre l'Inde et l'Iran est racontée dans les colophons des manuscrits Bidevdat Pehlevi, K1, IM et quelques copies de L4. Autour de 1231, Mahyar est venu d'Inde au Sistan et où il a demeuré 6 ans. Il a obtenu un manuscrit Bidevdat Pehlevi et l'a emporté en Inde. Celui-ci est la source de tous les manuscrits Bidevdat Pehlevi indiens. Au XIIIe et XIVe siècle, nous avons des notices sur des voyages des prêtres iraniens, de deux prêtres iraniens, Rostan et Mihraban, qui sont allés en Inde où ils ont copié quelques manuscrits. De plus, pendant le XVIIe siècle, l'envoi des manuscrits d'Iran à Inde semble avoir été commun. Comment en témoignent quelques manuscrits iraniens trouvés en Inde? Quelques colophons des manuscrits iraniens qui se trouvent en Inde mentionnent qu'ils ont été copiés pour être envoyés en Inde, comme les colophons du célèbre manuscrit Bidevdat Sadeh MF2 ou du Vistaspias K4. Vous pouvez les trouver dans les handouts. Bechmar Fredon, l'écrivain de K4, faisait 16 ans plus tard une autre copie du Vistaspias pour les prêtres de Surat. Malheureusement, cette copie est perdue. Fredon Masvan copia aussi en vispera de Ambistaspias pour les envoyer en Inde. Une copie est aujourd'hui encore à la Meherjirana Library. C'est le manuscrit J18. La première visite célèbre d'un prêtre iranien concernant la dernière visite célèbre d'un prêtre iranien concernant la production des manuscrits est celle de Djamash Belayat, un descendant de la famille iranienne la plus active dans la production des manuscrits, celle de Masvan Bahrom. Il est venu en Inde autour des années 20 du 18e siècle, a révisé les manuscrits du Bidevdat Pehlevi et a instruit en Avestik et Pehlevi trois prêtres, Darab de Surat, le futur maître d'Anquetil de Perron, Djamash de Nausari et un troisième de Varouj. On dit qu'il a apporté d'Iran avec lui un Bidevdat Pehlevi, mais il n'y a aucune trace de ces manuscrits. Donc, il y avait en Inde quelques manuscrits d'origine iranienne et quelques autres ont été copiés en Inde à partir de ces originaux. Je considère aussi comme manuscrits iraniens ceux qui ont été copiés en Inde par des prêtres iraniens et aussi ceux qui ont été copiés en Inde par des prêtres indiens mais qui gardent les caractéristiques paléographiques et orthographiques iraniennes. Quelques-uns ont été importés en Europe avec les grandes collections, en particulier dans la collection de Rask. Les plus célèbres sont les manuscrits de Rostan et Mihraban. Une copie de l'original de première est à Copenhague, K7. Du deuxième, deux sont à Copenhague, K1 et K5. Et une troisième à Londres, L4. Dans la collection de Rask se trouvent aussi les manuscrits liturgiques du Bistasias copiés par Bergmar Fredon, que nous venons de mentionner. K4. La liste se complète avec un Bidevdat Sadeh qui faisait partie de la collection de Bujorgi Sorabji Asvarner qui comptait autour de 70 manuscrits et qu'il avait donné à la Royal Society. Celui-ci est aujourd'hui à la British Library. Sauf les manuscrits de Mihraban, Spiegel n'a connu des manuscrits iraniens qu'après la publication de ses éditions. Il n'a pas eu connaissance des manuscrits liturgiques iraniens. Comme on l'a mentionné la semaine dernière, Vestager, par contre, a déjà collationné quelques manuscrits de cette classe. Le Vispérat de Rostan, K7, le Vistasbias de Bergmar Fredon, K4, et Ambidevdat Sadeh, K9. De plus, Wilson lui a envoyé une collation des cinq premiers fragards et une transcription des trois suivants du manuscrit MF2, qui s'est avéré être l'original de K9. Geldner a ajouté aux manuscrits disponibles en Europe quelques exemplaires iraniens envoyés d'Inde. Il emploie deux manuscrits liturgiques de Bidevdat, MF2, et un manuscrit de Fredon Masvan, GP1. Le dernier est perdu, mais comme on va voir, on connaît un autre manuscrit du même écrit, 10 ans plus ancien que celui-ci. On lui a aussi envoyé un Yasna Sadeh iranien, MF1, et en plus des manuscrits Yasna Pehlevi copiés en Inde, d'un original iranien 2 ans plus ancien que celui-ci. Ce sont les manuscrits PT4 et MF4 qu'il désigne comme des manuscrits Yasna Pehlevi iraniens, parce que les colophons confirment leur origine iranienne. Pourtant, on doit dire que des points de vue paléographiques, ils sont clairement des manuscrits indiens. Parmi les 83 manuscrits et les 9 collations de manuscrits contenant les textes de la liturgie longue employés par Geldner, seulement 6 ont été copiés en Iran. 5 ont été copiés en Inde, mais par des scribes iraniens, Rostam et Mihraban, et 7 sont des manuscrits copiés en Inde par des scribes indiens, mais d'origine iranienne ou à l'iranienne. Donc, il est évident que les manuscrits iraniens sont clairement mal représentés dans l'édition de Geldner. Il aura fallu attendre 100 ans pour avoir de nouvelles informations sur des manuscrits iraniens. Un article important de Katayoum Mazdapour, publié dans les Nameye Iran Bastan en 1999, présentait 12 manuscrits avestiques iraniens inconnus jusqu'à cette date. 4 manuscrits de ces listes sont des manuscrits Bidevdat Sadeh antérieurs à 1700. Geldner n'en connaît que 2. De plus, les manuscrits de l'université de Téhéran étaient 11 ans plus anciens que les plus anciens manuscrits liturgiques iraniens de Keltna, à savoir MF2. Cet article m'a convaincu de la nécessité de prêter attention aux manuscrits iraniens et depuis le début de l'Avesta Digitana Archive, la localisation et numération des manuscrits iraniens sont devenus un de ses buts principaux. Heureusement, le travail de l'Avesta Digital Archive n'était pas isolé. En Iran, quelques chercheurs et collectionneurs ont aussi entrepris cette recherche. L'acteur principal est sans doute Katajum Mazdapour, mais on doit aussi mentionner Fatemeh Jahanpour, qui a récemment publié un Bidevdat Sadeh qui se trouve à la Stanley Coates Library de Mashhad, et aussi Bahman Mouradian, Marian Ganei, etc. Les collectionneurs Vahid Solfegari méritent aussi une mention spéciale. Il s'est engagé dans la recherche des manuscrits avestiques qui se trouvent à Yazd, a fait de très importantes découvertes et a réuni lui-même une collection importante. Sa collection comprend actuellement 4 manuscrits de la liturgie longue. Le plus important est sans doute le Bidevdat de Bahrom Marzvan. Il a aussi 2 bisperat censés être les 2 plus correct Bisperat Sadeh, et donc Dastur Sedaga ou Dastur Nandar, on va chez leur édition lithographie du Bisperat sur ceci. Moi-même, j'ai aussi réussi à trouver quelques nouveaux manuscrits. Ainsi, un Bidevdat Sadeh nous a été donné par un membre d'une famille sacerdotale, et l'Avesta Digital Archive a même acquis les manuscrits avestiques enluminés les plus anciens. Permettez-moi de parler une minute de ces manuscrits enluminés, puisque l'Avesta Digital Archive a joué un rôle très important dans la découverte d'un bon nombre de ceux-ci. Parmi les manuscrits de Keltna, on ne trouve pas de manuscrits enluminés, hormis quelques manuscrits indiens avec des décorations géométriques. Cependant, à la British Library, il y a depuis de la fin du XIXe siècle, un manuscrit enluminé du Bidevdat qui semble être le seul. Aujourd'hui, je connais 4 manuscrits enluminés du même copiste, Mihraban Anoshakhruban. En fait, un des Bidevdat mentionnés par Katayum Mazdapour était une copie du même copiste et aussi enluminé. Cette copie se trouve à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque du Parlement iranien. J'en ai découvert un autre dans la maison de Rachid Rostami lors de mon dernier séjour en Iran. Et le quatrième a récemment été acquis par l'Avesta Digital Archive en Iran. Celui-ci est le plus ancien. Il date de 1635. En plus, à Kerman, j'ai trouvé 5 manuscrits additionnels copié par Isfandiar Anoshirvan au XIXe siècle. Il y a 20 ans, on ne connaissait donc qu'un manuscrit enluminé de l'Avesta et Keltna n'en connaissait aucun. Aujourd'hui, on en a trouvé 9. Cela nous donne une idée des avancements que l'on a fait durant les dernières années en ce qui concerne les manuscrits avestiques en Iran. En effet, tous ces efforts combinés ont entraîné un changement drastique de la situation, surtout pour les manuscrits liturgiques. Malheureusement, on n'a découvert aucun nouveau manuscrit exégétique en Iran pour des raisons qui nous échappent. La seule exception, bien qu'elle ne soit pas vraiment une exception, est les manuscrits liturgiques de Bidevdat de l'Université de Téhéran. Il inclut une traduction Pehlevi interlinéaire partielle qui doit encore être analysée en détail. Il a été copié par Fredon Marzvan, dont la question est de savoir si cette traduction représente la même tradition de son père Marzvan Fredon, qui est le copiste du manuscrit perdu IM, l'équivalent iranien des manuscrits Bidevdat de Mihraban Kaikhosro. Quant aux manuscrits liturgiques, Keltna n'en employait que 5. Mais aujourd'hui, nous en connaissons 52, dont 38 ont été copiés en Iran. Bien que quelques manuscrits iraniens se trouvent dans les importantes collections indiennes de Kama Oriental Institute et Mehajirana Library ou européens, la plupart, 30 manuscrits, sont encore en Iran. D'ailleurs, de nouveaux manuscrits ne cessent pas d'apparaître là-bas. Le nombre de manuscrits liturgiques iraniens antérieurs à 1700 que nous connaissons est aujourd'hui supérieur à celui des Indiens. C'est le point 8 de handout. La découverte des manuscrits avestiques en Inde avait déclenché l'édition de Gellner, qui au début ne devait être qu'une réédition de celle de Westergaard. L'histoire se répète. Actuellement, le décèlement des manuscrits iraniens justifierait à lui seul une nouvelle édition. À l'époque safavide, jusqu'au règne de Shah Hussein, mais plus spécialement pendant le règne de Shah Abbas, de 1588 à 1629, la production des manuscrits avestiques a été intensive à Yazd et Kerman. Une famille kermanie, connectée avec les Khorasan, était spécialement active, celle de Marzban Fredon. Donc, dans les handouts fournis, c'est le point 10 du handout, on peut voir l'arbre généalogique de cette famille avec les manuscrits les plus importants qu'ils sont copiés. Marzban Fredon lui-même a copié Ambidevdat Pehlevi perdu, IM, et au moins Ambidevdat Sadeh, duquel sont parvenues quelques copies faites par ses fils. En plus, il est connu comme l'écrivain des manuscrits Pehlevi 435 et de Dagestan Edenik et DH du Bundahishn. Ses fils sont les copistes des manuscrits avestiques les plus influents du XVIIe siècle en Iran et leur influence s'est même étendue en Inde. Ils ont copié plusieurs fois le Bidevdat Sadeh de leur père et ces manuscrits sont à la base d'un bon nombre de manuscrits liturgiques iraniens que nous connaissons. La copie disponible la plus ancienne est celle de Fredon Marzban qui se trouve aujourd'hui à l'université de Téhéran. Il copia aussi les manuscrits GP1 de Gellner, qui sont aujourd'hui perdus. De son frère Bahrom, on connaît au moins deux copies. Une se trouve à Yazd, dans la collection de Vahid Zulfikari, l'autre à Mashhad, dont on n'a conservé que la deuxième partie. Le manuscrit de la bibliothèque du Parvarez Gharti Yazd a été copié, semble-t-il, par deux scribes. Bahrom et Manouchi Herrostam. Pour la première partie, ils ont utilisé un manuscrit du même Bahrom, et pour la deuxième, un de son frère Fredon, mais écrit selon la doctrine, Patjastak, de Manouchi Her et de Bahrom. La plupart des manuscrits liturgiques de Bidevdat de cette époque sont connectés avec cette famille. De même, les manuscrits du Bidevdat de la famille Ravaniam, bien qu'il ne mentionne pas la famille de Marzban dans son colophon, est vraisemblablement aussi connecté avec elle. Il a été copié d'un manuscrit de Manouchi Herrostam, dont nous connaissons un manuscrit, copié entre lui et Bahrom Marzban à partir de deux originaux de deux frères Marzban, comme je viens de dire. Le seul manuscrit iranien de Bidevdat pour lequel il n'y a pas d'évidence de sa connexion avec la famille de Marzban Fredon, c'est le manuscrit MF2. La contribution de cette famille pour notre connaissance de la cérémonie Bistas Piast est aussi importante. Les deux manuscrits liturgiques les plus importants ont été transmis par celle-ci. Fredon Marzban écrivait en 1627 en Vistas Piast Sadeh, d'un original par Hosrosak Anoshakruban de 1324. Il fut écrit pour être envoyé en Inde et y fut abondamment copié. Une copie est le manuscrit de 18. Qui se trouve actuellement à la Mehajirana Library à Nausari. Son frère, Bahrom, fit une autre copie de ce même manuscrit qui fut copié à nouveau par son parent éloigné, Behmar Fredon. C'est le manuscrit K4 employé par Gellner. Fredon a aussi copié au moins deux fois la cérémonie de Vusperat. Un de ces manuscrits est à l'université de Téhéran, mais très endommagé. Il n'y a pas de colophon, mais la paléographie permet de l'identifier comme un manuscrit de Fredon. Une copie de ce manuscrit est la deuxième partie de G18 à Nausari. Il nous indique qu'il a été copié d'un original de Manouchi Her Ardashir. L'analyse des colophons de nouveaux manuscrits nous permet de mieux connaître les passes de la Bidevdat liturgique iranien. La plupart dérivent d'un manuscrit de Sahyar Erdeshir Eris, qui a aussi écrit l'original du Pehlevi Bidevdat IM, copié plus tard par Marzban Fredon. La reconstruction de l'histoire des Sadeh iraniens de Gellner arrive jusqu'à ce point. Il dérive de ces manuscrits de Sahyar sur deux copies, MF2 et YP1. bien que MF2 soit le seul manuscrit Bidevdat iranien qui ne dit rien sur sa dépendance de l'original de Shahriar Ardeshir Eriz. Actuellement, les colophons du manuscrit de la famille de Ravanian nous permettent de remonter un peu plus loin dans le passé. Le décolophon de ces manuscrits contient quelques lignes additionnelles là où les colophons finissent habituellement. Elles sont identiques dans les deux colophons, mais le deuxième est sévèrement endommagé, comme on peut le voir. C'est le point 11 du handout. Je cite la traduction. J'ai écrit ce livre à partir de Dastoir Bijan Shahriar en consultation avec Giv Esfandiat Giv, dont l'âme est au paradis. Qu'il soit encore plus ainsi, qu'il soit selon la volonté de Dieu et de son mortal bienfaisant. Le début est similaire avec une expression que l'on trouve dans le deuxième colophon du Denkar. Je cite la traduction du colophon du Denkar. Bien. La copie de ce livre, je l'ai faite dans le livre de Masvan Esfandiad Masvan Mihravan Esfandiad Mihravan Masvan Deniad Rosvech Sakhman Dan Shadanak Shah. J'ai fait ce livre à partir d'une copie de Dastur Bijan Shahriar Bijan et l'ai fait en consultation avec Giv Esfandiad Giv. Ici, Shahriar Ardeshir Eriz, le même écrivain du Bidevdat Sade original de Masvan Fredon, semble affirmer, malgré quelques problèmes d'interprétation que je vous soumets maintenant, qu'il a copié ces manuscrits d'un original de Masvan Esfandiad Masvan et aussi d'un autre de Bijan Shahriar, et qu'il a aussi consulté avec Giv Esfandiad. Par conséquent, il semble que les lignes finales du colophon du manuscrit de Ravanian appartiennent aussi au colophon de Shahriar. Elle révèle qu'il a copié son manuscrit de Bijan Shahriar et en consultation avec Giv Esfandiad. On peut ainsi retracer l'histoire des manuscrits liturgiques de Bidevdat un peu plus loin, c'est le point 12 du handout, et on voit que la transmission du Bidevdat Sadeh a été en Iran parallèle à celle du Denkar, au moins pendant un siècle, et aussi à celle de Bidevdat Pehlevi. Nous pouvons retracer encore plus loin la généalogie des manuscrits liturgiques de Bistaspiast. Gelna data l'original de K4 à la fin du XVIIe siècle et le dériva de l'original du Bidevdat Sadeh, le manuscrit de Shahriar Ardeshir, que l'on vient de mentionner. Pourtant, maintenant on le sait bien, l'original du Bistaspias de Bahram Masvan et celui de son frère Fredon fut copié en 1324 et est ainsi un des manuscrits avestiques les plus anciens. Nous avons en fait les colophones originaux copiés dans les manuscrits G18. Donc, il ne peut pas dériver ni de Shahriar ni de son original de Bijan Shahriar qui sont autour de 200 ans postérieurs. C'est le point 13 du handout. La rareté des manuscrits liturgiques de Yasna reste encore aujourd'hui étonnante. Gelna n'en employa qu'un, MF1. Aujourd'hui, nous en connaissons 6. Mais sauf MF1, tous les autres, s'ils sont datés, sont très tardifs, car copiés au XIXe siècle. De plus, ces manuscrits liturgiques de Yasna iraniennes ne sont pas vraisemblablement des Yasna originaux, mais créés à partir des manuscrits d'autres variantes de la liturgie. Une analyse des indices de concordance, c'est le point 14 du handout, nous permet de tracer l'histoire de quelques manuscrits de ces classes. Les manuscrits de Yasna et du Visperat d'Isfandiar montrent un élevé indice de concordance qui est élevé par un bon nombre de lectures exclusives de ces quatre manuscrits. C'est le point 15 du handout. La plus significative est sans doute la faute Aina Yaoscha pour Haina Yaoscha au Yasna 9-18. Il semble que le Yasna n'est pas indépendant du Visperat. De plus, un de ces Visperat, 2040, et évidemment en rapport avec le Bidevdat Sadeh de Mihravan Anoshahruvan, qui se trouve à la British Library. Il partage avec lui un indice de coïncidence très élevé, presque 80%. Et j'ai déjà mentionné que le Visperat d'Esfandiar est un des quatre manuscrits enluminés que l'on connaît aujourd'hui de ses scribes. Ils sont les seuls connus qui imitent les enluminures des manuscrits de Mihravan Anoshahruvan. probablement, il a connu les manuscrits de la British Library, soit les manuscrits de la British Library, soit un autre manuscrit similaire de Mihravan Anosharuvan. Il partage en effet au Yasna 9 11 lectures qui sont différentes dans les autres Yasna iraniens et aussi dans les Videvdatsade iraniens qui n'appartiennent pas à Mihravan Anosharuvan. Je cite dans le handout quelques-uns des plus significatifs, c'est le point 16 du handout, bien qu'aucune ne soit pas très probante. Les deux manuscrits de Yasna montrent l'influence de Vizisperat 2040 et peut-être le Yasna, le texte de Yasna manuscrit a été extrait de celui-ci. Il y a un deuxième groupe de Yasna iranien auquel appartient un manuscrit trouvé récemment dans une maison particulière à Yazd, attaché au Temple du Feu ancien. Il était de la propriété de Réchi de Sahriar, un des Dastur que Jackson a visité à Yazd. L'autre manuscrit de ce groupe appartenait à la famille Ravanian. Ils sont en rapport avec un des Vizperatzadeh de la collection de Vahid Solfegari, qui pour sa part est en relation avec K4. J'ai l'impression que les Yazd iraniens récents ont été créés par rapport à d'anciens manuscrits du Vizperat qui ne sont pas non plus très anciens et à leur tour sont en relation avec d'anciens manuscrits Bidevdat ou Bistashpiast. Malheureusement, la tradition ancienne des MF1 ne semble pas avoir été continuée, ou du moins, nous n'en avons pas encore trouvé la preuve. Je vais parler maintenant de l'intérêt de ces classes de manuscrits. Déjà Vestergaard, qui n'employa que des manuscrits liturgiques iraniens, K4 et K9, et une collation partielle de MF2, reconnut la singularité de cette classe de manuscrits. Ces lectures sont souvent indépendantes de celles des manuscrits Pehlevi et aussi de celles des Sadeh indiennes. Pourtant, il ne leur reconnaît aucune autorité. Ces lectures divergentes sont étranges, de même que les résultats de changements ou corrections arbitraires, même si réalisés avec une grande érudition et attention, il dit. À son avis, les manuscrits liturgiques iraniens représentent une révision critique du texte et ne peuvent donc être utilisés pour une édition critique qu'avec une très grande précaution. Ils ne sont utiles que pour confirmer la lecture des manuscrits Pehlevi ou Sadeh indiens. C'est la préférence pour la division tripartite de la méthode lahmanienne dont j'ai parlé la semaine dernière. Le seul mérite de ces manuscrits serait de confirmer dans leur cas, dans les cas de divergence entre manuscrits exégétiques et liturgiques indiens, une lecture plutôt que l'autre. Pour Gelna, le Yasna MF1 ne serait qu'une version sans traduction Pehlevi d'un manuscrit exégétique. En outre, le Bistashpiast ne serait qu'une variété de manuscrits liturgiques de Bidevdat qui dérivent du même original. Il réduit les manuscrits liturgiques iraniens à une seule classe, les manuscrits de Bidevdat. Cependant, au contraire de Vestergaard, il reconnaît ouvertement la supériorité de cette classe. Pourtant, sa dépendance vis-à-vis de Vestergaard se voit une fois de plus ici. D'une part, il attribue aux manuscrits iraniens l'influence d'une Vulgata iranienne clairement inférieure. De l'autre, ces manuscrits seraient les descendants d'une révision critique du texte ou même d'une nouvelle rédaction, exactement comme l'avait proposé Vestergaard. Il distingue une révision superficielle qui n'a fait que des questions d'orthographe et une autre plus profonde. Un exemple de la première serait la graphie du préverbe ham avec un type spécial de nasal au lieu de la nasal habituelle. Pourtant, grâce aux travaux de Hoffman, aujourd'hui on le sait, la forme habituelle dans les manuscrits iraniens est l'original et pas le résultat d'une révision. La révision profonde, quant à elle, consiste en des changements arbitraires du copiste parce qu'il croit mieux connaître la forme attendue. Vestergaard et Gelna ont reconnu les caractères particuliers des manuscrits liturgiques iraniens, mais n'ont pas tiré toutes les conséquences nécessaires. Hoffmann leur attribue pourtant un rôle important dans ses argumentations, parce que c'est là où il trouve d'habitude les arguments pour ses identifications de la valeur originale de l'être avestique. Malgré les contacts, la tradition iranienne a des traits caractéristiques à tous les niveaux, paléographiques, orthographiques et textuels, qui la distinguent de l'indienne. Les différences de ductus sont évidentes. Pour un connaisseur de manuscrits avestiques, la distinction entre un manuscrit indien et iranien est immédiate. Mais il y a aussi des différences paléographiques dans l'écriture de quelques lettres. On trouve un bon nombre de lettres qui sont différentes dans les manuscrits indiens et iraniens. Dans l'hypothèse de Hoffmann, l'alphabet avestique a été créé une fois et va rester le même pour toujours, le seul changement étant la confusion de quelques lettres par la perte de la distinction des nuances phonétiques qu'elles représentaient. Cependant, les manuscrits nous donnent une vision plus vivante de la transmission. Quelques lettres changent leur fonction, d'autres se confondent, d'autres sont altérées pour n'être pas confondues, voire même de nouvelles lettres sont créées. Si on ne compare que les lettres différentes qu'ils utilisent, les manuscrits peuvent être classifiés dans des groupes différents. C'est le point 17 du handout. Les manuscrits liturgiques iraniens sont un groupe très cohérent. Les manuscrits de Rostam Mihravan, Kasset, prêtre iranien qui copia les manuscrits en Inde au XIIIe siècle, est très similaire aux manuscrits liturgiques iraniens du XVIIe siècle, sauf pour la différenciation entre langue I et langue U, qui va disparaître plus tard en Iran. Son usage des lettres avestiques est presque le même que celui d'une des autres, écritures de Yasna Sanskrit S1. Ces manuscrits combinent deux écritures différentes, souvent dans la même page, parfois même dans la même ligne et même dans les mêmes mots, qui débutent avec un type d'écriture et se terminent avec l'autre. Une de ces écritures est la plus étrange de tout ce que j'ai vu dans les manuscrits avestiques, mais concernant les lettres utilisées, elle est au même stade que les manuscrits de Mihravan. La seule exception est l'invention d'une nouvelle lettre pour la nasale préconsonantique. Parmi les manuscrits liturgiques indiens, B3 et sa copie L17 sont très semblables aux manuscrits de Rostam Mihravan. La seule différence significative est qu'ils alternent arbitrairement l'usage des iodes initiales de Mihravan et l'iranien. Les restes des manuscrits liturgiques indiens, et même les exégétiques copiés plus tard à partir du XVIIe siècle, montrent tout une série de caractéristiques particulières. Les suivants sont les plus évidents. L'ancien A nasal est substitué par une lettre qui à l'origine était employée pour le schwa nasal. Elle est déjà employée dans tous les manuscrits de Darab Hirachanda dans la première moitié du XVIIe siècle. Ce changement a amené la création d'une nouvelle lettre pour l'impréconsonantique, sur la base de la nouvelle lettre pour la nasale. Elle apparaît déjà dans un manuscrit de 1654. On la trouve même dans des manuscrits qui utilisent l'ancien A nasal, comme l'écriture An de S1. Ou dans les manuscrits 4240 de 1664. Les scribes ont évidemment connu différentes traditions et ont choisi. La lettre pour langue U, a acquis en Inde une forme caractéristique déjà dans les manuscrits de Darab Hirachanda. C'est le point 17 de handout, la première ligne. On peut le voir. La forme originale apparaît dans Rostam Mihravan et même dans les manuscrits S1. C'est le U bref, mais avec un trait inférieur. Les manuscrits liturgiques iraniens distinguent, avant la confusion de I et U, à la moitié du XVIIe siècle, le U long de I long seulement par la direction du trait en dessous. En Inde, depuis Darab Hirachanda, un nouveau U s'est généralisé. Finalement, dans les manuscrits indiens, bien que l'on trouve les mêmes iodes initiales que dans les iraniens, l'iode utilisé par Mihrawan est plus fréquent que celui-ci et dans quelques manuscrits devient le seul. La distribution des lettres pour le iode initial a été décrite par Hoffman et plus récemment par Tremblay. Mais ces données, basées sur l'édition de Kellner, ne sont ni complètes ni exactes. Selon Hoffman, le iode que j'appelle iranien est exclusif en Iran, alors qu'en Inde, on trouve les deux, mais le deuxième est plus habituel. Le iode iranien serait l'original et la substitution partielle en Inde serait la conséquence de la prononciation de la vulgata indienne du i comme la sifflante sonore palatale g, qui serait similaire à la valeur originale de cette lettre. Cette valeur est déduite tout simplement par sa similarité avec la sifflante palatale sourde, comme l'avait déjà fait Bartholomé. Pourtant, il n'y a aucune preuve. Tremblay accepte l'analyse de Hoffman, mais il ajoute que les iodes de Mihrawan deviennent plus tard universels en Inde, ce qui n'est pas vrai. La distribution est plus complexe et surtout, personne ne mentionne les problèmes les plus difficiles concernant la distribution de ces deux lettres. Mihrawan Kaïkhosro n'emploie que les iodes indiennes, ce qui est très important pour déterminer la position de son manuscrit de Mihrawan. La distribution réelle est la suivante, c'est le point 18 de handout. Le iode que j'appelle iranien est l'unique que l'on trouve dans les manuscrits liturgiques iraniens et chez Rostam Mihrawan, cassette. L'autre, le iode que j'appelle de Mihrawan, est exclusif des manuscrits de Mihrawan dans l'écriture en des manuscrits S1 et dans quelques manuscrits liturgiques indiens tardifs. Par contre, les manuscrits liturgiques indiens et les combinés Pehlevi-Sadeh, du type DPT-4, combinent les deux dans une distribution qui semble aléatoire. Depuis la fin du XVIIIe siècle, on trouve quelques manuscrits liturgiques indiens qui n'emploient que les iodes indiennes. Il semble qu'à l'époque moderne, ces dernières triomphent en Inde, mais les iodes iraniennes ne disparaissent jamais complètement. Observez que le manuscrit 631 est copié tardivement d'un manuscrit de Mihrawan, mais il présente parfois les iodes iraniens, alors que l'original de Mihrawan n'a l'a jamais. Selon l'hypothèse de Hoffman, c'est étonnant que Mihrawan, un prêtre iranien, ait copié au moins 4 manuscrits en Inde de 2 originaux iraniens et qu'en ce qui concerne l'usage des iodes initiales, il l'a fait à l'indienne. La substitution sera déjà accomplie en Inde au XIVe siècle et serait si étendue qu'elle aurait autant influencé Mihrawan qu'il aurait définitivement abandonné la lettre iranienne. Cela serait compatible avec l'uniformité de l'écriture des manuscrits sanscrits, mais pas avec l'alternance que l'on trouve dans les manuscrits liturgiques indiens encore 4 siècles après Mihrawan. Il semble donc qu'il y avait 2 traditions différentes en Iran même, qui employaient 2 lettres différentes pour les iodes initiales. On ne connaît pas la distribution régionale, soit que les i de Mihrawan soient sistani, par exemple, ou de genre. La tradition exégétique aurait l'i de Mihrawan et la liturgique le i iranien, ou encore une autre, on ne sait pas. Trouver le manuscrit IM d'Ibidevdat Pehlevi pourrait peut-être résoudre beaucoup de doutes de ces doutes. Enfin, du point de vue paléographie, on voit les traditions indiennes et iraniennes évoluer, changer, créer et éliminer des lettres de l'alphabet et se différencier. Dans ce contexte, les présupposés hoffmanniens selon lesquels toutes les lettres de l'alphabet avestique ont été créées une fois et pour toujours ne sont qu'un a priori. La découverte des manuscrits iraniens nous permet de mieux connaître 2 traditions paléographiques différentes et de mieux reconstruire leur histoire. En outre des différences purement paléographiques, on trouve aussi des différences orthographiques entre les manuscrits iraniens et les indiens. Selon l'avis de Hoffman, l'alphabet avestique avait été conçu pour représenter même les moindres nuances phonétiques. Dans les cours de la transmission et avant la rédaction des 6 archétypes, quelques nuances n'étaient déjà plus correctement reconnues et les lettres qui les représentaient furent employées incorrectement ou dans des positions où elles n'étaient pas et attendus selon leur valeur originale. Pourtant, les manuscrits iraniens préservent encore bien quelques-unes de ces distinctions, quelques-unes de ces distinctions qui, selon Hoffman, seront déjà perdues dans les hyparchétypes. La semaine dernière, on a déjà mentionné le célèbre cas de la confusion entre les trois lettres Shin. Leur distribution originale avait déjà été mentionnée par Bartholomé et certes sur la base des données des manuscrits iraniens. Si Kellner rejetait d'éditer selon cette distribution, c'est parce qu'elle est basée sur les données des manuscrits iraniens modernes et contredit les données de Mihraban. En effet, comme Bartholomé et Kellner l'ont bien vu, ce sont les manuscrits iraniens qui préservent le mieux la distribution originale. On comprend bien la surprise de Kellner, qui ne peut pas facilement croire que les manuscrits liturgiques iraniens du XVIIe siècle aient préservé une distinction originale qui était déjà perdue dans les manuscrits de Mihraban, qui sont presque 300 ans plus anciens. Pourtant, l'apparition des nouveaux manuscrits iraniens vient les confirmer. Ils ont sauvegardé la distinction entre des lettres qui se sont confondus dans les manuscrits liturgiques indiens contemporains et aussi dans les plus anciens manuscrits de Mihraban. En effet, dans les manuscrits liturgiques iraniens, là où la lettre Shin de Asha est attendue étymologiquement, on la trouve presque toujours, même dans les manuscrits les plus récents. Et de plus, elle n'est employée que là où on l'attend, c'est le point 19.1 du handout. Les exceptions sont très rares. Elle n'apparaît pas avant Yeu en raison d'une distribution secondaire, mais sans doute active en Iran et avec une intensité mineure aussi en Inde. L'usage de la Chine hyperpalatale devant Yeu. On explique ainsi les formes comme Masio. Hormis de ces exceptions, un emploi impropre est très rare et quand il apparaît, c'est d'habitude le résultat d'une association fautive. Par contre, les manuscrits de Mihraban montrent une distribution différente qui a été prise comme norme éditoriale par Kellner. En position initiale et finale, il n'écrit jamais la Chine de Asha, de même que dans la ligature Echte. Dans les groupes Xe, il emploie pour la plupart les Chine normales, bien que dans un tiers des occasions, on trouve les Chine de Asha. Kellner a fait de cet usage minoritaire, sa norme éditoriale. Dans les autres positions, il écrit presque toujours la Chine de Asha, là où on attend la Chine normale. La même distribution apparaît dans l'ancien manuscrit indien Sade B3 et sa copie L17. Dans les manuscrits Yasna combinés et dans les manuscrits sanskrit S1, la distribution est similaire à celle des manuscrits iraniens, mais l'usage de la Chine normale au lieu de celui de Asha est déjà fréquent et il devient encore plus fréquent dans les restes des sades indiennes. Donc, seulement les manuscrits liturgiques iraniens conservent bien la distribution originale entre la Chine normale et la Chine de Asha. Ce n'est pas le cas pour la Chine hyperpalatale, qui est devenue la chim régulière avant I, même dans les manuscrits iraniens. Cet usage est commun pour les yasna combinés et les manuscrits des yasna sanskrits. On les trouve aussi parfois dans quelques sades indiennes. L'analyse d'une autre lettre, qui est absente des manuscrits liturgiques indiennes, l'impalatal, nous amène aussi à une conclusion similaire. Salaman avait les premières découvert sa fonction. Cette lettre est employée originairement avant I consonantique et selon Bartholomé aussi avant I vocalique. Cependant, Kellner ne l'employa pas dans son édition. Elle n'apparaît régulièrement que dans les manuscrits iraniens et très rarement dans les manuscrits de Rostand et Mihraban. Au Yasna 9, on trouve une seule attestation de l'en palatal dans G2. Par contre, on ne trouve presque aucune exception dans les manuscrits liturgiques iraniens après Wajal et devant I consonantique. La palatalisation, par contre, n'a pas lieu après consonne. Voir par exemple Berethra, Gnia, Icha. Dans les restes des cas, la distribution n'est pas si claire. Notez de plus que devant I consonantique, sa présence n'est pas simplement une réminiscence de sa présence dans, un archétype antérieur, mais une règle active. Au Yasna 9-18, au lieu de Hainayaoscha, deux manuscrits iraniens ont Hinyaoscha et Henyaoscha. Puisque la nasale est dans ces deux manuscrits en contact avec la I consonantique, elle devient palatale. On pourrait faire une analyse similaire avec d'autres lettres, par exemple, vous trouvez dans le point 21 la nasale velar labialisée, mais les simples que je viens d'exposer suffisent pour montrer que la confusion entre certaines lettres de l'alphabet original avestique ne s'est pas produite avant la réaction des supposés hyparchétypes dont nos manuscrits dériveraient. Bien au contraire, quelques signes de cette distinction se sont maintenus vivants dans la tradition iranienne liturgique jusqu'en date très tardive. En fait, toutes les confusions ne se sont pas produites simultanément, mais à des moments différents de la transmission. En outre, on voit que les manuscrits iraniens se montrent plus conservateurs que ceux de Mihrabane et que ses correspondants indiennes. Il semble que la tradition scripturale liturgique d'Askermani était plus soigneuse que les autres. Il semble que la tradition, en effet, la comparaison des indices de coïncidence entre manuscrits d'un même copiste vient les confirmer. C'est le point 22 du handout. Deux copies d'un bidevdar liturgique copiées par Bahrom Masvan avec une différence de 13 ans montrent un indice de coïncidence de 81% au Yasna 9. Cependant, le des manuscrits de Mihrabane, copié du même original avec un an de différence, montre un indice de coïncidence beaucoup plus bas, 74%. Les quatre manuscrits plus anciens de la classe de manuscrits combinés de Yasna que Gelna appelle Yasna Pehlevi iranien montrent des indices de coïncidence similaires à celui de Mihrabane, autour de 75%. Les manuscrits liturgiques indiens de Darab Hirachanda se situent autour des mêmes chiffres pour les manuscrits de la même classe. Ainsi, les Yasna LV2 et K11 montrent un indice de coïncidence de 74. On y trouve des pourcentages similaires à ceux des manuscrits liturgiques iraniens que parmi les copies indiennes de K1 les plus conservatrices, B1, M3 et P10. Parmi les autres manuscrits iraniens qui appartiennent à la même tradition, mais qui ont été copiés par des copistes différents, on trouve aussi des pourcentages similaires ou supérieurs à ceux de Mihrabane ou de Darab Hirachanda. De la sorte, la tradition liturgique iranienne du XVIIe siècle apparaît comme la tradition la plus soigneuse dont on dispose. La tradition exégétique est très vraisemblablement aussi soigneuse, mais malheureusement, les manuscrits dérivent presque tous des copies d'un copiste peu méticuleux, le célèbre Mihrabane Kai Khosro. Mais la qualité de ces scripts n'explique pas tout. Si quelques distinctions ont aussi été abandonnées, mais pas d'autres, cela ne peut pas être expliqué comme un phénomène juste scriptural. La rédaction devait être aussi spéciale, la récitation devait être aussi spécialement soigneuse, parce que malgré la qualité des manuscrits, ils restent perméables aux changements récitatifs et pourtant ils préservent des distinctions qui sont perdues dans d'autres manuscrits. En définitive, bien que la collection des manuscrits de Gelna soit impressionnante, elle n'est ni insurmontable ni définitive, malgré la croyance généralisée. On trouve encore en Inde beaucoup de manuscrits qui ne furent pas employés par Gelna. Alors que les nouveaux manuscrits indiens n'apportent d'habitude pas de grandes nouveautés au matériel rassemblé par Gelna, la situation est très différente avec les manuscrits iraniens. La croyance généralisée était qu'il n'y avait pas de manuscrits de l'Avesta en Iran parce qu'ils s'étaient perdus, détruits ou envoyés en Inde. Pourtant, les recherches des dernières années ont montré qu'il y a un bon nombre de manuscrits avestiques en Iran et beaucoup d'entre eux sont plus anciens que leurs équivalents indiens. Le royaume de Shahabas a connu une importante production de manuscrits avestiques à Yazd et Kerman. Ces manuscrits se sont avérés dans beaucoup d'aspects comme plus conservateurs que ceux d'Inde. En outre, leur découverte nous permet pour la première fois d'analyser en détail et de comparer des traditions différentes de la transmission de l'Avesta qui montrent des caractéristiques différenciatrices dans beaucoup d'aspects. Ces variations concernent souvent des petites différences dans la récitation. Ces problèmes complexes vont nous occuper pendant la quatrième conférence. Cependant, toutes les différences ne sont pas si minimes. Dans les cours de la transmission, se sont produits aussi des changements dans les rituels et dans les récitatifs. Aujourd'hui, on peut comparer en détail pour la première fois la liturgie longue dans la tradition indienne et la tradition iranienne. Mais cela fait déjà partie du sujet de la prochaine conférence, la continuité et les changements dans les rituels de la liturgie longue. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.